Chers amis auditeurs, bienvenue dans cette émission préenregistrée du vendredi soir, animée comme de coutume par Lucien Rabouille, qui vous est offerte d'ailleurs dans la grâce de Noël. Ce soir, nous allons rentrer dans une expérience rare, presque anachronique, parler du présent en profondeur. Oui, vous avez bien entendu, la profondeur du présent. Cela pourrait sembler paradoxal dans une époque où tout n'est que vitesse, indignation continue, notification sonore, commentaires de deux lignes, souvent moins encore. Ce livre, c'est La profondeur du présent de Rémy Brague, notre invité du soir. Bonsoir Rémy Brague.
Bonsoir.
Un livre d'entretien avec Charles-Henri Dandigné, d'aveux, de souvenirs d'école, d'érudition joyeuse, qui rappelle que la connaissance n'est pas un marché ni une technologie, mais un monde à recevoir. Qu'apprendre le grec ne sert à rien, et c'est sans doute là une des dernières écoles de liberté dans une situation obsédée par l'efficace. Mais si nous pouvons parler ainsi du présent, du passé, de l'Europe, de Rémy Brague, de sa vie, de son œuvre, c'est parce qu'il a derrière l'ouvrage effectivement une œuvre. Une œuvre qui a, disons-le, marqué, et marque mes deux complices du soir, Bertrand Suchamp, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes familier du micro désormais. François-Xavier Sédoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous écrivez aux Écrits de Rome, laquelle a d'ailleurs consacré, je crois, un numéro à Rémy Brague, voici quelques mois.
Effectivement, Rémy Brague nous a fait l'honneur d'une interview dans notre numéro de novembre.
Vous connaissez l'œuvre de Rémy Brague comme d'autres connaissent leur psaume ou leur prière du soir. Car c'est bien de l'œuvre, de la réflexion sur l'Europe, du christianisme, de la morale, du Moyen-Âge qui donne son poids à ce livre de confession. Ce soir, nous allons entrer dans cette profondeur. Celle de la secondarité européenne, des maîtres qui forment l'esprit sans le savoir, du christianisme comme anthropologie, de l'islam comme question plus que comme slogan, du Moyen-Âge qui n'a jamais cessé de penser pour nous. La profondeur du présent, redisons-le, autobiographie intellectuelle, ouvrage d'entretien avec Charles-Henri Dandigné, c'est un ouvrage qui, Rémy Brague, fait votre actualité, qui a aussi motivé notre indignation, notre invitation bien sûr. Couper. Alors notre radio, sa rédaction, est souvent identifiée à une amicale de râleurs qui décline le « c'était mieux avant » ou le « tout fout le camp » sur tous les modes. Tout paraît superficiel, rapide, instantané et profond. Vous nous dites qu'il y a aujourd'hui, dans le présent, dans l'immédiat, dans l'instantané, quelque chose de profond. L'ouvrage titre sur une forme d'oxymore que peut-être Rémy Brague, il faudrait éclairer. Qu'est-ce que le présent peut-il bien avoir aujourd'hui de profond?
Bah écoutez, le présent est porté par tout un soubassement qu'on appelle le passé, mais justement le propre du passé, c'est de ne pas trop passer et de rester au fond. C'est d'où l'image de la profondeur. C'est moi qui ai choisi ce titre, faute de mieux. Hein, faute de mieux, je le répète. Et je voulais faire prendre conscience du fait que derrière notre actualité, ou plus exactement sous notre actualité, eh bien, il y a tout ce qui nous a fait, tout ce qui a fait ce que nous sommes, tout ce qui a fait le monde dans lequel nous vivons, la civilisation, si elle mérite encore ce nom, dans laquelle nous avons grandi et que nous aimerions quand même, malgré tous ses défauts, bien continuer, prolonger et évidemment, espérons-le, embellir. Donc, bah oui, le présent est profond, parce que on ne peut pas se contenter de glisser dessus comme sur une sorte de patinoire, mais il faut prendre conscience du fait que chaque pas que nous risquons, chaque fois que nous frappons le sol de nos pas, eh bien, il y a en dessous une immense caverne, ou plusieurs immenses cavernes qui se mettent à résonner. Donc, c'est un petit peu de cela qu'il s'agit dans ce livre. C'est un livre d'entretien, vous l'avez souligné, donc c'est un livre facile à lire, parce que, je l'ai écrit dans le style pseudo-oral que j'affectionne, et donc j'ai dû répondre à des questions. Et comme les questions étaient intelligentes, ça m'a donné l'envie de répondre, de préférence, de manière pas trop bête.
Ma conviction est que la dissociation, avec ses réalisations, un bien comme un mal, est incompréhensible si l'on ignore son histoire passée, y compris, voire surtout dans le temps long, écrivez. Et voilà effectivement qui éclaire l'oxymore. Est-ce ça la profondeur du présent? Est-ce n'est-ce pas finalement redécouvrir le réel comme don, et non seulement comme données, comme infrastructure, comme... Est-ce une autre expérience sensible du réel?
Écoutez, vous avez utilisé un mot du vocabulaire marxiste, à savoir infrastructure. Il se trouve que dans un petit bouquin précédent, il doit avoir au moins 10 ans, je crois, je ne me souviens plus exactement quand je l'ai pondu, J'ai essayé de montrer que la véritable infrastructure, enfin ce sur quoi se base tout, ce sur quoi nos véritables fondations, pour employer une image de l'architecture, ne sont pas uniquement, ou ne sont de toute façon pas uniquement, eh bien ce que les marxistes considéraient comme étant la base sur laquelle tout devait se construire. Puisque s'il y a une image de construction là derrière, n'est-ce pas ? J'ai essayé de montrer que une certaine attitude par rapport à la vie, une attitude d'affirmation de la vie, d'acceptation de la vie, j'aime bien le mot de don que vous avez employé, permettait la poursuite de l'aventure humaine. Poursuite qui doit ensuite se donner les moyens de sa politique, si je puis dire. C'est-à-dire se nourrir, se reproduire, se nourrir, essayer de s'organiser en une cité à peu près correctement lubrifiée. Donc, oui, l'infrastructure, c'est important, c'est ce sur quoi tout repose, mais elle n'est peut-être pas là où nous pensons qu'elle est. Je fais d'ailleurs remarquer que, je me permettrai, pardon, de remarquer devant cet aréopage distingué, que le marxisme reste toujours aussi virulent, avec cette différence qu'il est passé à droite. En ce sens que, c'est je crois d'ailleurs une petite remarque, un petit coup de patte que je me permets de donner dans le bouquin, je constate que la bonne bourgeoisie, les gens bien comme il faut, bien propres sur eux, envoient leur rejeton plutôt vers des écoles de commerce que vers des écoles de journalisme, ne parlons pas d'études de lettres classiques ou d'autres choses aussi saugrenues. Parce qu'il y a, tout au fond de leur esprit, si on peut l'appeler ainsi, justement la conception marxiste selon laquelle c'est l'économie qui détermine tout. Hein ? Ça, c'est une phrase que l'on entendait qui est évidemment la simplification extrême de la pensée de Marx, qui n'était quand même pas un imbécile. L'économie détermine tout. Donc, si on a l'économie, on peut laisser le reste à des gens qui pourront pisser en l'air tant qu'ils voudront. Alors, des journalistes, des professeurs, sauf votre respect, toutes sortes de gens qui s'occupent de choses un petit peu aériennes. Hein, l'allemand a un joli mot là-dessus, Luftikus, hein, celui qui se déplace dans l'air, hein, dans l'air où sont construits les châteaux en Espagne, des choses comme ça. Alors la droite française, en tout cas, je ne sais pas trop ce qu'il en est des autres pays, est sans le savoir marxiste.
La droite qui compte, disons, dans tous les sens du terme.
La droite qui comptabilise, oui, c'est le mot.
L'image de l'infrastructure, l'image des pavés que vous avez évoqués est éclairante. Il y a dans les représentations d'art-pompiers, notamment ceux du déclin de l'Empire romain, des figures de barbares. On voit des gens en peau de bête, hirsutes, sales, malodorants, qui arrivent dans une société extrêmement sophistiquée qui est celle de la Rome antique. Et ils n'ont pas forcément usage, justement, de l'infrastructure dans laquelle ils arrivent. On les voit monter sur des statues, on les voit à moitié nus dans des pavés romains, on les voit finalement comme des barbares d'une société sophistiquée. Ces gens qui, effectivement, peuvent vivre très confortablement, comme d'ailleurs probablement les barbares qui arrivaient au 4e, 5e siècle à Rome, qui découvraient les thermes, etc. Aujourd'hui, on a des gens qui vivent extrêmement confortablement, mais sans conscience de l'historicité de ce qui les entoure, sans conscience de l'origine de ce qui les entoure, sommes-nous aussi de barbares fortunés, justement pour parler de nos amis qui inscrivent leurs enfants dans des écoles de commerce. Sommes-nous des barbares ?
Écoutez, vous avez employé le mot pavé, mon livre n'en est pas un.
Dans la mare,
petit, peut-être dans la mare, éventuellement. Enfin, ça n'est pas moi qui le jette, hein. Ça sera au lecteur de trouver la mare adéquate aux dimensions de ce qui n'est donc pas un pavé, mais plutôt un gravier. À la rigueur, un galet.
Galet dans la mare.
Mais écoutez, notre image des barbares est en grande partie erronée. D'abord, barbare, je rappelle que c'est simplement, du point de vue des Romains et des Grecs, les gens qui n'étaient pas fichus de parler comme tout le monde. c'est-à-dire de parler grec ou latin, un petit peu comme le capitaine Haddock dans Coq en Stock dit à la dame arabe qu'il rencontre à la fontaine à la porte de Wadesda, vous ne pourriez pas parler français comme tout le monde. Alors effectivement, le barbare, du point de vue des gens qui se croyaient, se voulaient, ou étaient vraiment d'ailleurs civilisés, c'était celui qui n'était capable que de faire brr, 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 brr avec sa bouche, donc de dire des choses qu'on ne comprenait pas. Mais alors les vrais barbares, si je puis dire, ceux qui sont vraiment entrés dans l'Empire romain, nous les voyons, alors je vous avais fait allusion à certains tableaux d'art pompier, effectivement, du 19e siècle, qui représentent, alors oui, des gens vêtus de peau de bête et qui n'ont aucun sens de ce qui fait la culture et ce qui fait la beauté et l'intérêt de la vie civilisée. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient, ces barbares ? Ben, ils voulaient profiter, justement, des aménités de la vie romaine. Il voulait, ça c'est un historien allemand que j'ai connu un petit peu, Karl Ferdinand Werner, qui écrivait d'ailleurs en français, hein, il parlait un français absolument impeccable, et écrivait aussi un français tout à fait, français littéraire, tout à fait estimable. C'est lui qui a fait le premier volume d'une histoire de France, je ne sais plus trop chez quel éditeur. Ah bon. Eh bien, il disait que ce que désiraient les barbares, c'était de faire partie de la noblesse romaine, de la nobilitas, il employait le terme latin. Ils n'avaient pas du tout l'intention de tout casser. Hein, ce n'étaient pas les vandales, enfin, en tout cas, pas les vandales réels, mais les vandales de la légende, ceux qui ont laissé leur nom à cette attitude, évidemment, tout à fait désagréable pour ceux qui en sont les victimes. Ce qu'il voulait, c'était, eh bien, alors déjà, avoir un petit peu moins froid, être un petit peu plus près de la Méditerranée, accéder aux mers chaudes, et puis, bon, bah, avoir leur part du gâteau gréco-romain. Donc, lorsque l'on parle de barbare, puisque c'est un adjectif que l'on emploie maintenant pour qualifier toutes sortes de gens, il faut se poser une question. Plutôt les mettre devant une alternative. Est-ce que vous voulez participer aux bienfaits de la civilisation dans laquelle vous entrez ? Alors y participer passivement et y participer également activement, en jouant le jeu, en contribuant à la richesse des civilisations que vous désirez intégrer ? Ou est-ce que vous êtes venu là pour tout casser ? Évidemment, l'attitude des puissances accueillantes, si je puis dire, sera assez diverse, enfin devrait être assez diverse selon les cas.
Nous parlons de Karl Marx, il y a un autre philosophe à qui vous honorez une forme de dette intellectuelle et qui est présent dans l'ouvrage, c'est Martin Heidegger. On parle souvent de vivre dans le présent, mais rarement, et on revient justement à ces barbares qui ne savaient pas exactement l'usage qu'ils pouvaient faire de la ville et de la civilisation, on parle rarement d'habiter le présent. Est-ce là une nuance importante ?
Oui, c'est tout à fait important. Déjà Heidegger, alors c'est vrai qu'il y a une petite partie autobiographique dans ce livre « La profondeur du présent ».
Dans laquelle nous allons revenir.
Oui. Tout simplement parce que, celui qui m'a interrogé m'a essayé de me tirer un petit peu les vers du nez.
Il
y est parvenu en partie, donc j'ai dû un petit peu me déboutonner. Mais enfin, pas trop j'espère. Et c'est vrai que dans mon jeune temps, j'ai pas mal lu Heidegger. Ne serait-ce que pour échapper à l'alternative qui se présentait dans les années 60, puisque c'est dans les années 60 que j'ai commencé mes études supérieures. L'alternative était la suivante, ou bien vous étiez marxiste, ou bien alors vous faisiez des sciences humaines, parfois d'ailleurs teintées elles-mêmes de marxisme, etc. C'était l'époque où le marxisme était, pour citer Sartre, l'horizon indépassable de la pensée. On en a pas mal viré sa cutie depuis. Mais Heidegger a quelques belles pages, justement, sur la façon d'habiter la façon d'habiter, la façon d'être familier, et la façon, pour jouer encore un peu sur la richesse du vocabulaire français, la façon d'aménager et de ménager, c'est-à-dire d'être un petit peu délicat envers ce dans quoi on se trouve, qui devrait guider notre conduite. Nous habitons le présent, effectivement. Alors bon, bah, il faut, comme quand on entre dans une maison, faire le tour du propriétaire, regarder ce qui s'y trouve, apprendre où se trouve la salle de bain, où se trouve la cuisine, comment faire marcher les instruments, enfin, comment faire marcher la machine à laver, etc., des choses comme ça. Il faut apprendre à utiliser à son profit la civilisation dans laquelle nous vivons. Ça n'est pas donné comme ça, ça demande une éducation, d'où l'extraordinaire importance des questions liées à l'éducation dans notre hexagone actuel. Enfin bon, ça c'est un problème...
Et dans l'ouvrage également.
Pardon ?
Et dans l'ouvrage également.
Dans l'ouvrage aussi, bah oui, parce que je n'ai pas eu la chance, si vous voulez, d'être ce que Maurras appelait un héritier. J'ai été un boursier, déjà au sens propre. Et bon, il a fallu que je prenne conscience du fait que ces choses-là, ben, je ne les connaissais pas. Je n'étais pas tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et il fallait que je me les appropriasse. Bon. Je raconte ça un petit peu, oui, ça bon. C'est la découverte que j'ai faite en entrant en classe préparatoire, en Hippocagne.
Vous dites dans l'ouvrage que vous n'aimez pas parler de vous, et pourtant vous cédez à l'exercice autobiographique, puisque vous parlez justement de vos professeurs, de ces figures. Et on comprend d'ailleurs en vous lisant qu'ils vous ont beaucoup plus marqué pour leur charisme, leur côté bien en chair ou en estrade, leur érudition, que par d'éventuelles méthodes, techniques pédagogiques ou autres. Vous parlez également effectivement de ces années d'Hippocagne et de Cagne, et souvent elles sont décrites par ceux qui en témoignent, en particulier ceux qui, comme vous, atteignent Ulm, comme étant des expériences douloureuses d'humiliation symbolique. Leurs camarades, héritiers intellectuels, ont toutes les références possibles et imaginables. Vous semblez avoir, certes, vous attestez de ce que des jeunes gens outrecuidants peuvent être parfois un peu perçants, un peu pinçants. Diriez-vous pour autant que vous avez ressenti quelque chose de cet ordre et qu'il a fallu surmonter, initialement, entre guillemets, la difficulté de ne pas être tombé dans la marmite des humanités tout petit.
Alors écoutez, d'une part, il est vrai que dans ce livre, je parle un petit peu de moi, puisque, bon, ben, on me l'a demandé, et il se trouve que je suis mon meilleur spécialiste, hein, vraiment, mais de très loin, si vous voulez. De très loin, mais comme justement c'est quelqu'un avec qui je suis assez familier, bon, ben, je considère qu'il fait un peu partie des meubles, donc je ne m'intéresse pas tellement à lui. En tout cas, j'espère ne pas m'intéresser trop à lui, car ben, l'orgueil est un péché fort grave, hein, peut-être le plus grave de tous, puisqu'il est aussi la racine de tous. Alors, il est vrai que j'ai été obligé de passer au-dessus d'une certaine humiliation. Alors, humiliation et humilité, ça se ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. On n'est pas nécessairement humble parce qu'on a été humilié. Ça peut même produire l'effet inverse. Alors, en ce qui concerne le pays de la culture, ben, j'ai compris que je n'en étais pas citoyen d'emblée, qu'il fallait que je me fasse, ou que je me fisse, si vous préférez, naturaliser. Donc, bah, j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Je reste d'ailleurs, marqué par une sorte de complexe. Bon, les psys pourront m'allonger sur tous les divans qu'ils voudront. Un complexe de ce que j'appellerais le complexe de la cour des grands. L'impression qu'on ne joue pas dans la cour des grands. Ça, je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Je ne sais pas si je m'en débarrasserai jamais. Je ne sais même pas s'il serait bon que je m'en débarrassasse. Hein? Car bah, ça fait avancer.
C'est votre voix romaine, finalement.
C'est ma voix romaine, et justement, je me suis aperçu, je ne sais pas si je le dis dans le petit bouquin, que croyant écrire une sorte d'histoire culturelle de l'Europe, eh bien, j'ai écrit un petit peu mon autobiographie. Où j'ai écrit une autobiographie, bien entendu, transposée. Puisque mon idée, ça je crois que je le dis en toutes lettres, c'est que l'Europe est un continent de boursiers. Hein, puisque le Romain, hein, que vous venez de nommer, et qui donne le titre du petit livre où j'ai développé cette idée, se sont sentis un peu bouseux, puant la sueur et le cuir des casernes, puisque c'était quand même avant tout des légionnaires. Or, bon, ils ne sentent pas toujours uniquement le sable chaud, les légionnaires, hein, et ils ne sont pas toujours très civilisés. Mais les Romains, en tout cas leurs élites, ont eu la... l'humilité, je crois qu'il faut le dire, hein, l'humilité de reconnaître que même si ils avaient flanqué aux Grecs une dérouillée magistrale sur le champ de bataille, il ne leur arrivait pas à la cheville en ce qui concerne l'art, la science, la littérature, tout ce qui fait quand même une très grande partie du charme de l'existence humaine. Dans mon petit bouquin, pas celui dont on parle en ce moment, mais dans La Voix romaine, je cite les fameux vers de Virgile dont on oublie assez souvent de citer le commencement. Hein. C'est une légitimation du pouvoir romain. Hein. Nous sommes les gendarmes de la Méditerranée, si je puis dire, pensent les Romains. Mais en ce qui concerne l'art, la science et des choses comme ça, ce sont les Grecs qui vont vraiment tenir le haut du pavé. Et ils ont eu le courage d'apprendre le grec. Même le vieux Caton s'y est mis, alors qu'il rouspétait, pensait que c'était mieux avant, une sorte d'âge canonix, vous connaissez Astérix. Finalement, il s'est mis au grec. Et les Romains ont eu le courage de faire ça. Toutes les civilisations ne l'ont pas eu.
Avant de revenir sur la voie romaine, avec effectivement mon comparse François-Xavier, il y a une place importante que vous accordez à vos professeurs. Ce sont des figures qui sont effectivement marquantes et on voit un parcours classique exemplaire qui mène justement jusqu'à la réussite. Un parcours qui serait peut-être un peu plus rare aujourd'hui, puisqu'on sait que la place des boursiers ou des homo novus justement dans les humanités aujourd'hui s'est faite plus restreinte. L'éducation est un sujet en France passionnel, ainsi que les fameuses réformes d'éducation nationale. Marc Fumaroli disait beaucoup plus croire aux autodidactes des humanités, à ces jeunes gens qui se cultiveraient en rattrapant le temps perdu et en résistant à une civilisation de l'image, de l'instantané, qu'à une éventuelle réforme de l'éducation nationale, qu'à un éventuel retour de l'école avant. Quelle expérience tirez-vous, outre de votre parcours enseignant, également de ces méditations sur l'école et d'éventuelles perspectives?
Alors écoutez, d'une part, j'ai eu effectivement la chance d'avoir non pas un monsieur Germain, le fameux instituteur qu'Albert Camus a tenu à remercier dans son discours de réception du prix Nobel, mais la question m'a été posée par celui qui
Absolument.
M'a interviewé.
Avez-vous eu un Louis Germain?
Voilà. Est-ce que vous avez eu un monsieur Germain? Je dirais, j'ai pas eu un monsieur Germain, mais j'en ai eu toute une série. Toute une série de gens, pas toujours extraordinaire, mais qui faisaient bien leur métier, qui tenaient à nous transmettre ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Et ça, c'est vraiment précieux. J'en nomme quelques-uns. Je raconte même une anecdote sur un de ceux qui m'ont particulièrement marqué, Henri Goube, pour ne pas le nommer, ou surtout pour le nommer. Bel exemple d'apothéopèse rhétorique. Si vous voulez, je peux vous la raconter, puisque vous
absolument,
insistez, je la
absolument.
Raconte bien. Il est un professeur de grec et hélas pour moi, de thème latin, puisque comme un idiot, j'ai jamais apprécié le thème latin, alors que c'est ça vraiment qui mesure la connaissance d'une langue. Passons. Donc, il écrit un mot grec au tableau, il oublie une lettre. La classe, quelqu'un dans la classe, je ne sais plus, un brillant sujet, lui dit « Monsieur, vous avez oublié une lettre. » Alors Igoub se tourne vers le tableau et dit « Ah, oui, c'est une mauvaise graphie. » Silence dans la salle. Il se tourne vers nous après quelques instants de silence et dit « Messieurs, regardez la puissance du langage. J'ai dit une mauvaise graphie et vous n'avez pas réagi. Si j'avais dit « je me suis trompé », alors là, ça aurait été la révolte. » Vous voyez, ça m'est resté. Je m'en souviens encore. Alors, comment faire pour susciter des homines novi? Comme le nom l'indique, comme ils sont nouveaux, on ne peut pas les fabriquer comme ça à la chaîne, on ne peut pas les vouloir. Il faut qu'ils poussent, comme des champignons, voilà. Ou comme des herbes folles, les philosophes dans la cité de Platon. Alors, des réformes, ça ne manque pas. Je ne sais pas combien de réformes dans l'éducation nationale on a eu depuis... je souhaiterais que l'éducation nationale fût semblable à la Grande Chartreuse, qui n'a jamais été réformée parce qu'il n'a jamais eu besoin de la réformer. Alors, il semble que l'éducation nationale ne soit pas semblable à la Grande Chartreuse. Bien. Des gens comme ça qui découvrent tout d'un coup qu'il y a un pays immense, le pays de la culture, le pays de la beauté, et dans lequel ils peuvent entrer, on peut toujours espérer qu'il y en ait. Mais c'est quand même précieux qu'il y ait des institutions dans lesquelles on leur dise « ce pays, il existe. Il existe. Vous pouvez y aller si vous voulez. Si » c'est un petit peu comme si j'ignorais l'existence de l'Italie, j'aurais jamais l'idée d'y aller. Alors, ce que doit faire l'enseignement, et dès l'enseignement secondaire, me semble-t-il, à mon humble avis, c'est de dire, il y a un pays de la culture, alors il y a Cervantes a existé, Shakespeare a existé, etc. Alors, bien entendu, nous n'allons pas pouvoir, si nous sommes professeurs, nous n'allons pas pouvoir étudier à fond, ne serait-ce qu'un seul des deux auteurs que je viens de nommer, et il y en a des dizaines d'autres. Mais il est capital de savoir que ça existe. Je me souviens d'une petite discussion entre Michel Serre et Alain Finkielkraut. Michel Serre disait « c'est quand même formidable, Internet, je cherchais une citation de Virgile, j'aurais passé toute une journée à la chercher dans ma bibliothèque, et bien grâce à Internet, j'ai tapé les mots en question et j'ai eu la réponse en un quart de fragment d'instant. » C'est parfaitement exact, je fais ça aussi, mais Finkielkraut lui a fait remarquer, d'accord, mais encore fallait-il que vous sachiez l'existence de Virgile, que vous sachiez qu'il a écrit à un tel moment un vers dont vous n'arrivez peut-être pas à retrouver l'origine, enfin vous savez qu'il existe. Or ça... nous faire découvrir que quelque chose existe, c'est ce que aucun système informatique du monde ne pourra faire. Non, il faut déjà savoir qu'il y a quelque chose à chercher avant de se mettre à sa recherche.
C'est une remarque d'une terrible actualité, puisqu'on dit souvent que le fameux logiciel ChatGPT congédierait l'enseignement, puisqu'il rendrait accessible non seulement la connaissance, mais même l'expression écrite à toute subjectivité, dès lors, effectivement, qu'on appuierait sur le bouton. Or, c'est un outil qui déjà ne fonctionne pas de manière aussi instantanée et miraculeuse qu'on le dit. C'est un outil dans lequel il faut écrire et dans lequel il faut peser le sens des mots. Puis c'est un outil dont il faut aussi savoir évaluer le résultat. Et nous sommes trois professeurs du secondaire, du supérieur autour de la table, et nous savons qu'on en est extrêmement loin et que les jeunes générations se débattent avec un outil qu'ils ne maîtrisent pas, un peu comme justement ces barbares qui n'avaient pas forcément usage de la ville, mais qui en avaient du moins le confort. Nous conseillons l'ouvrage, l'entretien. Il mêle à la fois des propos personnels, anecdotes topographiques, des idées, des remarques générales, et également de l'érudition. Dans le dans le genre très français finalement de la conversation, qui m'a fait penser à Composition française de Manuel Ouzouf, un ouvrage qui étonnait notamment par sa composition, puisqu'il arrivait à associer ces trois éléments et également faisait une très grande place à l'héritage des professeurs. Il y a d'autres ouvrages, je crois, qui ont marqué mes comparses, une dimension religieuse, une dimension plus historique. François-Xavier Seydoux, je vous sais avare de poser des questions à notre invité sur la fameuse voix romaine.
Oui, tout à fait. Cette voix romaine dont vous nous avez déjà dit quelques mots, puisque vous nous avez parlé de cette secondarité de la civilisation, de cet intérêt que les Romains ont su montrer pour le monde grec. Cependant, la civilisation européenne ne s'arrête pas aux Romains, elle continue jusqu'à ce soir dans notre studio. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments sur la façon dont cette secondarité a été vécue par les Européens tout au long de leur histoire ?
Très bonne question. Et je suis heureux, finalement, que ce livre, La Voix romaine, qui est quand même vieux maintenant, la première édition, c'était 92. Je ne suis pas sûr que vous étiez né en 92.
Et non. Bon. Non, personne ici.
Et alors, curieusement, il a eu un succès. Ça n'a pas été
une année importante pour l'Europe.
J'en ai pas vendu des millions, si vous voulez. Mais. Déjà, c'est pas moi qui le vends et il ne m'a pas rapporté grand-chose, à bien l'avouer, financièrement parlant. Mais il en est quand même à sa 17e traduction. Et la dernière, c'était il y a un an, en norvégien. Bon, comme ça. Et donc, c'est ce que les éditeurs appellent un long seller. Alors, je sais bien qu'on n'aime pas tellement l'anglish à Radio Courtoisie. Bah, oui. Tant pis, c'est le terme devenu technique. Alors, les Romains dont je parle dans ce bouquin, ce sont d'abord les Romains de ce que Pierre Grimal a appelé le siècle des Scipions, c'est-à-dire le deuxième siècle avant le Christ, au moment où, d'une part, les armées romaines s'emparent de la Grèce, qui devient la province d'Achaïa. Et d'autre part, les Romains se rendent compte que par rapport à ces gens qui pourraient regarder de haut et appeler des graeculi, des petits Grecs de Médée, ils sont des petits garçons. Ils sont des petits garçons et ils se mettent au boulot. Alors ce qui est remarquable, c'est que cette attitude s'est poursuivie justement dans l'histoire de l'Europe, l'histoire culturelle de l'Europe, et ça a duré pendant des siècles. Pendant des siècles, on s'est dit, on n'est peut-être pas très malin, mais il faut qu'on se mette au travail et qu'on arrive, sans doute n'y arriverons-nous jamais, on va tâcher moyen de faire en sorte. Il faut qu'on essaye de s'élever au niveau, de s'élever, le mot est très beau, on dit qu'un enfant est bien élevé. Et il va falloir s'élever au niveau des Grecs. Et c'est ce qui a parcouru toute l'histoire culturelle de l'Occident, de renaissance en renaissance. On dit la renaissance, mais en fait, il y a eu toute une série de renaissances, et on pourrait peut-être même dire que la dernière renaissance, ça a été ce que Werner Jaeger avait appelé, de manière un peu pompeuse, le personnage n'est pas très sympathique, mais enfin, c'est un savant quand même, et appelé le troisième humanisme. Mais ça, c'est dans les années 20, c'est en réaction à la déconfiture de la République de Weimar qui va conduire à ce que nous savons, de désagréable. Donc, cette attitude-là a duré. Alors, il se trouve que Pendant les années 60, c'est assez curieux, j'aimerais qu'un historien, enfin ils l'ont peut-être déjà fait, mais simplement moi je n'ai pas lu, qu'un historien se pencha, avec un accent circonflexe, vers cette espèce de révolution, parfois bruyante, mais parfois plus discrète et peut-être d'autant plus radicale, d'autant plus dangereuse, qui s'est passée pendant les années 60. Et l'un des symptômes intéressants, ça a été finalement l'abandon ou le premier pas vers l'abandon des études classiques. Bon, ce qui n'est peut-être pas grave en soi, mais c'est très grave à cause de ce que ça représente, à savoir l'idée que finalement, nous sommes suffisamment malins comme ça. Hein, c'est pas la peine de se donner, de faire des efforts pour s'approprier quelque chose de supérieur. Nous sommes des grands garçons, hein, l'humanité a atteint son âge adulte, hein, tout slogan qu'on entendait bien dans les années 60, et donc, bon, on n'a plus rien à apprendre, c'est plutôt nous qui devons essayer de civiliser les autres, de les élever vers notre merveilleuse société de consommation, etc., etc. Donc, nous avons peut-être besoin de recommencer. Ah oui, vous allez dire recommencer, c'est toujours un petit peu décevant, mais enfin, tous les jours nous mangeons, tous les jours nous dormons, enfin, notre vie est un éternel recommencement. Hein. Alors, bon, pourquoi ne pas essayer de recommencer à s'approprier ? Alors, peut-être pas. Je précise que dès que je suis dictateur, ce qui ne saurait tarder, je rendrai obligatoire les langues classiques dans l'enseignement. Bon. Mais, mis à part cette dystopie, parce que je crois que je ferai un très très mauvais dictateur, ça serait bien que l'on se remette à se dire bah, finalement on n'est peut-être pas ce que l'on a fait de mieux depuis le pain en tranche, qu'il faudrait peut-être qu'on essaye de s'améliorer un petit peu. Apprendre des autres, par exemple, même des autres même des civilisations contemporaines, même des civilisations qui sont autour de nous. J'ai eu l'occasion de dire une fois que les grandes civilisations qui nous entourent ont chacune un message. Hein. Les États-Unis nous disent ne vous imaginez pas que c'est la paix, vous imaginez pas que vous allez pouvoir sortir de l'histoire. Et ben, nous leur répondons, finalement, vous êtes des cow-boys. Les Chinois nous disent, si vous essayez de travailler, vous allez vous ruiner. Ben, on leur dit, avec, pour reprendre les paroles d'une première ministresse sous Mitterrand, vous êtes des fourmis jaunes.
Bon, elle avait un sens de la parole publique inné.
Ah oui, ça, elle était douée. Bon, enfin, paix à son âme. Le monde arabe nous dit, bah, si vous cessez de faire des enfants, vous allez disparaître. Et nous leur répondons, bah, vous êtes des sales fondamentalistes, etc. Donc, il y a quand même, chez nous, beaucoup de gens qui refusent d'apprendre, hein, qui refusent de se mettre à la leçon de gens qu'on n'a pas nécessairement à aimer, mais bon, qui peuvent quand même nous apprendre des choses. Voilà.
Dans ce refus d'apprendre des autres que vous mettez à la racine en 68, on retrouve une idée un peu plus ancienne que vous avez pu développer sans doute dans Modérément moderne, où vous évoquez ce projet de bâtir du neuf, de faire une forme donc de révolution, de nouveauté. Est-ce que ce refus dans lequel l'Occident s'enferme aujourd'hui a des racines encore plus profondes que celles des années 60 ?
Alors d'abord, je suis très heureux que vous ayez cité le titre de ce livre, parce que j'en suis vraiment très content. Je ne suis pas très content du livre, je suis content du titre. Ça, j'ai un amour immodéré du calembour. Celui-là était assez réussi. D'ailleurs, je crois qu'il a fait sourire pas mal de gens. Bon, enfin, en tout cas, cette attitude n'est pas née en mai 68. Enfin, mai 68, c'est la... comment dire, le moucheron d'un moment, enfin, c'est un éphémère. Hein. Ça a commencé finalement beaucoup plus tôt, par exemple avec Descartes. Descartes contre lequel je n'ai aucune opinion défavorable, enfin, qui a quand même eu cette idée d'un recommencement à zéro, hein, de partir de zéro, de faire table rase de tout ce qu'il savait. Bon, bien entendu, c'est parfaitement fictif, hein, mais bon, il y a ce projet, hein, de tout mettre à plat et de recommencer à partir de rien. Et le problème, c'est que ce qui était valable, ce qui n'était pas sans intérêt même, au niveau de l'individu, puisque en fait, c'est une sorte de... les méditations, c'est un petit peu la sécularisation des exercices spirituels. Hein, c'est un exercice très profondément ignatien. Bon. Alors, ce qui pouvait valoir en spiritualité et au niveau le plus intime de la personne a été transposé, et ça, c'est l'œuvre de ce siècle qu'on appelle les Lumières, enfin, qui s'est inventé d'être lumineux, ça a été transposé au niveau collectif. Et ça a donné la chasse aux préjugés. Le mot est déjà chez Descartes, mais lorsqu'il dit que nous sommes enfants avant que d'être hommes, et donc bon, il faut se débarrasser de toutes les illusions que l'on a entretenues pendant notre enfance. Et c'est devenu la lutte contre les préjugés et le désir justement de repartir à zéro. Hein, alors d'où l'idée révolutionnaire. Hein, on va détruire les institutions et on va les remplacer par des institutions qui seront totalement rationnelles, qui seront faites par la raison. Alors, moi, je n'ai rien contre le projet en lui-même, mais ce qui est amusant, c'est que cette tentative s'est accompagnée d'une régression, non pas du tout d'un projet, mais non pas du tout d'une progression, pardon, mais d'une régression. Les révolutionnaires se sont imaginés qu'ils rejouaient la République romaine. Alors ils se sont affublés de noms romains, enfin, qui ne se prénommait Cincinnatus, qui ne se prénommait reprénommait Brutus, ou des choses de ce genre-là. Hein. Marx s'est moqué de ça, hein. Je parlais de Marx tout à l'heure, en disant que l'histoire se répétait, mais première fois en tragédie et la seconde fois en comédie. Bon. Et effectivement, on a vu reparaître, au moment de la Révolution française, bah, toute la Rome ancienne, enfin la Rome d'abord républicaine, puis impériale. Enfin, regardez toute l'imagerie napoléonienne, vraiment, qui est absolument césariste. Alors Louis, le problème justement de l'ennui, si vous voulez, quand on veut tout recommencer à zéro, c'est qu'on ne fait jamais totalement table rase. Hein, il reste des choses qui sont inscrites sur la tablette de cire. Hein, c'est ça l'origine de l'image de la table rase. Hein. Rase, ça veut pas dire... ça veut dire araser. Ça veut dire effacer, n'est-ce pas, avec le stylet, un bout du stylet, pour pouvoir réécrire ensuite. Et qu'est-ce que ça n'a pas créé comme catastrophe, hein, jusqu'au président Mao, puisque le grand timonier se proposait d'écrire sur la page blanche de la Chine, non pas jaune mais blanche, eh bien un merveilleux poème, puisqu'il se croyait calligraphe. Bon, il avait autant de talent en calligraphie que Hitler en peinture. Enfin bon, c'est comme ça. Donc attention aux gens qui vous disent « on va recommencer à zéro ».
Puisque nous parlons des renaissances et des révolutions, oui. Mais Emmanuel Levaresquiel à ce micro, voici quelques mois, nous parlait de son livre sur la Révolution française. Un chapitre notamment s'intitule « En France, les mots précèdent les choses ». Rémi Braque, vous êtes connaisseur d'une renaissance, celle du Moyen-Âge, notamment du XIIe siècle, et vous avez traduit un certain nombre, je crois, de théologiens et d'autorités médiévales, ou du moins vous les avez étudiés et commentés. Lorsqu'on voit l'actualité, lorsqu'on voit effectivement ces événements révolutionnaires, ces mots qui ne désignent plus, qui ne décrivent plus, mais qui fabriquent et qui instituent l'identité, le vivant, la valeur, qui deviennent des sortes d'étiquettes instables, pour reprendre, et je m'adresse effectivement aux connaisseurs de textes et de philosophie médiévale, une philosophie qui est largement oubliée, notre époque n'est-elle pas un nouvel âge nominaliste ?
Ah, alors ça c'est quelque chose que l'on entend assez souvent à droite de l'échiquier politico-intellectuel, à savoir tous nos maux viendraient du nominalisme. Je pense toujours à cette scène du malade imaginaire où Toinette, je crois, déguisée en médecin, explique à... Non, attendez, c'est pas... Je ne sais pas si c'est pas M. Purgon, enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui est soit un vrai, soit un faux médecin. D'ailleurs, pour Molière, tous les vrais en étaient des faux aussi. Bon. Dit, vous allez tomber de la dyspepsie dans la pepsie, de la pepsie dans la lianterie, de la lianterie dans la dysenterie, et de la dysenterie dans la perdition de la vie, là où vous aura mené votre folie. Bon. Ben, je me demande si chez certains de nos contemporains, il n'y aurait pas cette idée que on est passé de Jean d'Ascot à Guillaume de Cam, de Guillaume de Cam à Luther, de Luther à Robespierre, de Robespierre à je ne sais pas qui, et on arrive à Mélenchon. Bon, je ne suis pas trop fan de ce genre d'historiographie. Hein. D'excellents connaisseurs de la philosophie médiévale, je pense à Étienne Gilson, hein, je ne pense pas à moi, hein. Étienne Gilson, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et d'affection. J'ai eu l'honneur de préfacer la traduction française de livres qu'il avait écrit directement dans un anglais excellent. Et d'ailleurs aussi de faire une préface en anglais pour une traduction américaine de ses Métamorphoses de la Cité de Dieu. Donc, ben, Gilson était quand même beaucoup plus modéré hein, que cette façon de dire, ben, voilà, il y a une sorte de péché originel de la pensée. Déjà, si d'Ascot était là, bah, c'est peut-être aussi qu'il y avait dans ce qui l'a précédé, y compris dans la merveilleuse synthèse thomiste, des points faibles sur lesquels il a appuyé. Bon, je crois qu'il ne faut pas je crois au péché originel, mais pas au péché originel de la pensée. Hein. Je crois que je suis au péché originel tout court. Hein, ça suffit déjà largement, hein, quand on pense aux emmerdements qu'il nous a causés. Pourquoi en ajouter un second ? Voilà, donc, ce qui est vrai, et ça c'est absolument indubitable, c'est effectivement ce que j'appellerais non pas tellement le nominalisme, mais plutôt la logocratie. Hein. Je me demande d'ailleurs si le mot n'a pas été employé par Czesław Miłosz, le poète, le diplomate et poète polonais. J'ai eu la chance de rencontrer une fois et de lui donner l'occasion de parler dans cette langue qu'il aimait beaucoup, qui était le français, puisqu'il vivait aux États-Unis, mais il avait peu l'occasion de parler français. Dans son livre qui s'appelle « La pensée captive hein, », qui a été un des meilleures analyses du système soviétique, paru au tout début des années 50, je crois, hein, peut-être même à la fin des années 40, je ne sais plus, bon, il a cette idée, logocratie, hein, une idée qui a été reprise sous une autre forme, mais forme voisine par quelqu'un qui a été un ami et que je regrette énormément, Alain Besançon, qui remarquait que l'idéologie, il n'y a pas besoin d'y croire. Il suffit de la parler. Hein, il suffit de dire, bon, il y a une société socialiste, et de l'autre côté, il y a des sociétés capitalistes. Dans la société socialiste, il y a de la justice sociale, peut-être un petit peu de bureaucratie, mais enfin, il y a quand même beaucoup de justice sociale et des choses comme ça. Bon, toute chose qui n'avait d'existence qu'en tant que, comme disait je ne sais plus quel politicien un peu humoriste, des paroles verbales. Mais l'important, c'était justement de parler comme il fallait. Hein? Et on ne vous demandait pas, en Union soviétique, on ne vous demandait pas d'y croire. D'ailleurs, personne n'y croyait. Le mot, je crois que le parler de religion séculière, de religion politique, je crois que c'est faux. Hein? Ça nous induit en erreur de parler comme ça. Mais il fallait dire. Là, bon, voilà, il y a un parti communiste, il y a des choses comme ça, il y a une économie socialiste, alors que ça n'a jamais existé. Ce qui existait, c'était une économie réelle qui marchait tant bien que mal, et plutôt mal que bien, et qui vivait de statistiques truquées, et des choses de ce genre-là. Donc, alors vous allez dire, étant professeur, j'ai tendance à surévaluer les mots, à leur accorder plus de poids qu'ils n'en ont, mais il y a des domaines dans lesquels je crois qu'ils avaient effectivement un poids, et un poids pesant, si j'ose dire, et un poids oppressant.
Bobino.
Au moins 5 millions d'euros, c'est ce que l'État a donné cette année à des associations antiracistes comme SOS Racisme. Les associations LGBT qui promeuvent la transsexualité auprès de nos enfants ont reçu, elles, au moins 10 millions d'euros. Si cela vous semble normal, alors surtout, continuez à payer vos impôts comme d'habitude. Mais si, comme moi, cela vous indigne, alors reprenez le contrôle sur une partie de votre argent et empêchez l'État de le donner à des causes qui vous dégoûtent. Dès maintenant, faites un don à Radio Courtoisie et aidez-nous à défendre vos idées.
Il vous reste 5 jours pour nous aider à défendre vos idées. Avant le 31 décembre, minuit, faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Votre don est déductible de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don de 100 euros ne vous revient donc en réalité qu'à 34 euros et vous permet de donner une partie de vos impôts à une cause que vous soutenez vraiment.
Bon, François-Xavier Seydoux.
Ce qui est fascinant lorsque l'on vous lit et qu'on a aussi la chance de vous écouter, c'est qu'on s'aperçoit que tout ce que vous défendez sur la voie romaine, tout ce que vous nous expliquez sur cette secondarité qui serait propre à l'Europe, on le retrouve également dans des travaux de psychologie. On le retrouve dans les travaux de Joseph Henrich, qui a écrit un livre passionnant sur The Weirdest People in the World, les gens les plus étranges du monde, que sont les Occidentaux, qui ont des caractères psychologiques qui les distinguent nettement du reste de l'humanité. Et ce qu'il souligne aussi, c'est le refus de l'esprit clanique, c'est-à-dire la tendance des Occidentaux à tout juger sur des critères universels. Et c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup et sur lequel j'aimerais vous interroger, c'est cette question de l'universalité qui, pour vous, ne va pas de soi.
Effectivement, Bergson dit quelque part, se fondant sur, dans les deux sources, se fondant certainement sur des travaux qui n'étaient pas les siens, mais qu'il utilisait intelligemment, qu'il semble que l'homme ait été fait pour vivre dans de petits groupes. Alors, je parle quelques dizaines, disons, bon, de gens. Et lorsque deux groupes comme ça se rencontrent, bon, bah, ça peut faire un clash. Lorsque des unités plus grandes se rencontrent, etc., bon, elles peuvent soit se mettre d'accord, soit... Bon, arriver péniblement à faire des compromis, etc. Alors c'est vrai que beaucoup de gens, je ne sais pas trop comment quel mot employer, fonctionnent par horde, hein, avec un H, hein, en ce sens que ils ont du mal à concevoir que lorsque l'un des membres de la bande, ou de la, comme on voudra dire, ou de la meute, est attaqué, c'est tout le groupe qui est attaqué. Et donc on ne se demande pas par exemple, l'un des membres du groupe a commis quelque chose de répréhensible, s'il est attaqué, c'est tout le groupe qui est attaqué, et il faut donc le défendre. Alors, le petit miracle, peut-on dire, de la civilisation européo-occidentale, ben, c'est que elle combine un respect infini de la personne et l'idée selon laquelle tout le monde est une personne. Tout le monde est mon prochain, si je puis dire, pour employer du vocabulaire biblique. Alors, je ne connaissais pas l'existence de ce monsieur Heinrich, je ne connaissais pas, à plus forte raison, son bouquin, « The Weirdest People on the Earth », ça me semble, c'était tout assez amusant comme titre. Mais là, je crois qu'il a mis de toute façon le doigt, je n'ai pas lu le livre, hein, bon, mais je crois qu'il met le doigt sur quelque chose de remarquable, à savoir que cette civilisation dans laquelle nous baignons, que nous le voulions ou non, est quelque chose d'extraordinairement bizarre. C'est quelque chose encore dans mon livre sur l'Europe, là je parle de l'identité excentrique de l'Europe. Mais excentrique a aussi le sens que ça a dans le langage courant, à savoir, on appelle excentrique, le lord anglais qui met son chapeau haut de forme pour prendre sa douche, enfin bon, voilà. Donc des gens un petit peu zinzin. Et effectivement, la civilisation européenne est quelque chose de bizarre, quelque chose qui peut-être n'aurait pas dû exister. L'occidental est accidentel, si je puis jouer sur, à nouveau faire un calembour. Et c'est intéressant donc de voir que c'est l'endroit où on s'est mis à imaginer. Quant à traduire dans la pratique, là, c'est évidemment une autre paire de manches, mais enfin, on s'est mis à imaginer que tout homme était mon prochain. Bon. Alors ça, c'est le christianisme. Hein. Ça n'existe pas ailleurs. Lorsque la Bible dit, Lévitique 19-17, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, le contexte montre à l'évidence que le prochain, c'est le membre du groupe. Hein. C'est le contribule, le membre de la même tribu, ou le coreligionnaire. Et ça s'est poursuivi pendant des siècles. Pendant des siècles. Quelque part, alors pas dans ce bouquin, mais dans, je crois que ça, oui, ça doit être dans La morale remise à sa place. Hein, c'est mon avant-dernier livre. Je cite un texte de Maïmonide, donc Maïmonide au XIIe siècle. Hein, il est mort en 1208. Qui dit que il est interdit de jeter une bouée à un païen qui se noie. Et la justification, c'est parce qu'il n'est pas ton prochain, justement. C'en est un autre. Alors, le judaïsme a mis de l'eau dans le vin de Maïmonide, si je puis dire. Bon, mais ça attire notre attention sur le fait que ça n'a rien d'évident. Quelqu'un qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas la même couleur, qui n'a pas le même âge, n'a pas le même sexe, n'a pas, enfin, quelqu'un qui diffère de vous d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas évident de le considérer comme de plein pied avec vous. Et ça, ça doit nous être dicté, si je puis dire, d'ailleurs. Je pourrais presque parler d'une révélation de la prochaineté de l'autre. Prochain étant d'ailleurs un terme piégé, puisque ça ne veut pas dire nécessairement celui qui est votre plus proche, mais c'est celui qui se trouve être à côté de vous, comme ça, parce que, comme dans la parabole du bon samaritain, hein, il dit explicitement que le samaritain, il était là comme ça, il passe par là, tout à fait par hasard. Bon, seulement il se trouve qu'il y a un type à côté.
Bertrand Suchan, ces remarques vous inspirent, je crois.
Oui, vous avez évoqué la morale remise à sa place. Votre, effectivement, très revigorant avant-dernier essai, paru en 2024. Vous nous avez bien fait comprendre que ce qui vous intéresse, c'est l'universalisme, qui est aussi la traduction littérale du mot catholique. Vous nous avez par ailleurs, en citant le Lévitique, en disant que vous étiez attaché au péché originel, donné quelques indices sur l'attachement personnel que vous avez à ce que vous venez de qualifier de révélation. Alors, j'aimerais que vous nous donniez votre point de vue en tant que chrétien sur la morale, parce que vous nous avez bien expliqué dans cet essai que la morale, ça n'est pas le moralisme, que la morale, elle n'est ni moderne, ni traditionnelle, ni encore moins, dites-vous, judéo-chrétienne, et qu'il n'y a pas de morale chrétienne, qu'il y a une lecture chrétienne de ce qu'est la morale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette morale commune et universelle ?
Oh, écoutez, c'est ce que quelqu'un que j'aime bien et que j'aurais aimé connaître, mais enfin bon, il est mort en 62, donc j'étais pas bien vieux, j'avais 13 ans, C.S. Lewis, il parlait des grandes platitudes. Hein, des grandes platitudes, effectivement, hein, la morale est composée de platitudes. Bon, c'est ce qui fait d'ailleurs que elle peut apparaître comme ennuyeuse. Si vous êtes journaliste, c'est beaucoup plus intéressant de faire un reportage sur des gens qui mènent une vie parfaitement immorale que sur des gens bien comme il faut, qui sont dans les clous, qui, bon, voilà. Alors, ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin, c'est le petit livre, hein, le moral remis à sa place, tient finalement, encore une fois, dans une sorte de, c'est pas un calembour, mais enfin, c'était pas un jeu de mots non plus, mais enfin, c'est, disons que j'utilise les deux sens de l'expression « remettre à sa place ». Quand c'est selon l'objet. Hein, si l'objet, c'est une personne, bon, bah, ça veut dire, quand vous dites « Ah, celui-là, je l'ai bien remis à sa place hein, !» Ça veut dire « Bon, j'ai rabattu son caquet, je l'ai renvoyé dans les cordes, etc. » Donc, c'est très négatif. Mais quand c'est un objet, pas un bibelot précieux qui est tombé dans la poussière, bon, bah, vous le ramassez, vous l'époustez, et puis vous le remettez à sa place, vous le remettez là où il était tombé. Alors, il y a les deux. Il y a un usage de la morale qui est parfaitement détestable, hein, c'est la morale de l'index levé. Bon. Hein, l'index de l'ayatollah, ou l'index de la petite ayatollette suédoise qui vous rappelle que vous faites bobo à la terre, etc. Bon. Et puis, d'un autre côté, bah, la morale, ce que j'appelle la morale commune, bah, qui permet que les gens ne s'étripent pas les uns les autres, enfin, en tout cas que tous ne s'étripent pas les uns les autres, étant donné que malheureusement, c'est un sport assez répandu dans certaines régions. Bon. Alors cette morale commune, bah, c'est les grandes banalités qui sont énumérées bah, dans les 10 commandements. Hein, c'est pas poétique, hein, ça n'a pas le charme de l'originalité. Hein, bon, ne pas tuer, pas voler, pas tromper sa femme, ne pas porter un faux témoignage, etc. Vous avez comme ça des listes de pratiques qui bah, constituent ce que j'ai appelé, je crois, quelque part, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, le kit de survie de l'humanité. Hein, ce qui permet déjà de survie au sens le plus banal du terme, hein, ce qui permet que que l'espèce humaine continue à exister. Et puis, c'est aussi l'humanité au sens où l'on parle d'une attitude humaine. Un joli paradoxe, d'ailleurs, parce que s'il y a un animal cruel, c'est bien l'homme. Hein. Enfin, mais, donc, cette humanité idéale, cette conduite idéalement humaine, eh bien, elle est garantie par ce minimum vital qui se trouve un petit peu partout. Je sais pas, il y a des imbéciles qui disent, le christianisme n'a pas inventé la morale. Monsieur Homais, j'admire le christianisme. Hein, il a libéré les esclaves. Il a introduit une morale. Bon. Bien, c'est pas vrai. Le christianisme a pris la morale telle qu'elle assure le bien de l'humanité. Et il n'y a pas 36 façons de ne pas tuer. Hein. Il y a 36 façons d'aider une vieille dame à traverser la rue dans les clous, bon d'accord. Mais il n'y a pas 36 façons de ne pas lui piquer son sac à main, après l'avoir dûment assommé. Bon, hein, ce sont des banalités, je le répète. Hein, et c'est pour ça que vous les trouvez absolument partout. Vous les trouvez dans le livre des morts en Égypte ancienne, de la confession négative, hein, non, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, etc. Bon. Vous les trouvez en Chine, chez Confucius, bon, je ne sais pas un mot de chinois, hein, je parle vraiment de seconde, si ce n'est de troisième ou de quatrième main. Bon, vous trouvez ça un peu partout. Et c'est évidemment, parce que partout où il y a des hommes, bah partout, il faut qu'il y ait des conditions de possibilité de l'existence humaine. Donc, ce petit livre n'a absolument pas l'intention de prêcher la morale, parce qu'on la sait, on la connaît déjà. Je dirais même qu'on ne la connaît que trop. Au sens où on dit à quelqu'un « Oh, vous, je vous connais !» Bon, c'est pas positif d'habitude. Hein. Ça veut dire « Bon, je sais que vous allez essayer de jouer un sale tour. Bon. » Bah, effectivement, parce que vous avez parlé de péché originel tout à l'heure. Moi, le péché, je suis contre, évidemment. Mais ça ne m'empêche pas de le pratiquer. Hein. Saint Paul, lui-même, disait, ça c'est absolument fondamental, le bien, je sais très bien ce que je devrais faire, mais je ne le fais pas. En revanche, ce que je déteste, ce dont je sais très bien que je ne devrais pas le faire, je le fais. Bon. D'ailleurs, c'est une banalité. Hein. À la même époque, vous trouvez les fameux vers de vide, vidéo, mis dans la bouche de Médée, qui est sur le point de tuer ses enfants, ses propres enfants, pour se venger de leur père. Vidéo meliora proboque, hein, je vois ce qui est meilleur et je l'approuve. Deteriora sequor, mais je me règle sur ce qui est moins bon, sur ce qui est pire. Bon, il y a même quelque chose comme ça dans les écrits de Qumran. Hein, j'ai donné la référence de ce truc, je ne me souviens plus par cœur ce que c'était, mais enfin, vous voyez, dans le judaïsme, dans le christianisme, enfin bon, Paul est encore fortement juif, bien entendu, et dans ce qu'on appelle le paganisme, ben, vous trouvez les mêmes constatations.
Ce paradoxe, que vous, d'ailleurs, vous avez résumé en disant tout à l'heure, mais l'homme, on appelle humain une attitude bonne, alors même que l'homme est le plus cruel des animaux, ce paradoxe, il est parfois, il nous amène parfois dans une situation difficile où on a le sentiment que derrière le vide sur ces questions que provoquent nos débats, eh bien, on a trouvé une carte qu'on utilise pour se mettre d'accord, c'est l'humanisme. Vous avez justement écrit un essai très revigorant en donnant une conférence qui a fait l'objet d'un petit texte publié aux éditions Salvator, « Après l'humanisme, l'image chrétienne de l'homme ». Et vous rappelez que l'humanisme est un terme employé parfois un peu à tort et à travers, qui semble un peu fourre-tout. Je cite, vous évoquez différents livres qui ont repris la formule « est un humanisme ». Le néoconservatisme est un humanisme en 2005. Vous avez trouvé aussi la psychanalyse est un humanisme. Le monothéisme est un humanisme. L'individualisme est un humanisme, le pessimisme, le libéralisme, le soin, l'athéisme, et vous vous demandez, faites qu'il y ait enfin quelque chose, n'importe quoi, qui pour une fois n'en serait pas un.
Oui, là, je dois bien avouer que je me suis un petit peu amusé en regardant ça, mais c'est vrai que j'ai regardé sur Internet, hein, je croyais que Sartre avait, utilisé, mais brûler, si je puis dire, l'expression « machin est un humanisme ». Alors lui, c'était l'existentialisme est un humanisme. Et alors effectivement, il y a eu... comment il s'appelait ce socialiste Philippe, je crois André Philippe, je crois. Un socialiste qui était allé à Londres avec De Gaulle, bon, et qui a écrit « Le socialisme est un humanisme ». Bon, et puis, évidemment, j'ai regardé. Alors ça, c'est un des bienfaits d'Internet. Et effectivement, il y a une vague de titres. « Machin truc est un humanisme ». Donc, j'ai été vraiment soulagé lorsque... avec quelqu'un que je connais et dont le nom m'échappe pour l'instant, ça c'est vraiment idiot, a écrit hein, « Le christianisme n'est pas un humanisme ». Alors, ça, je dis, ça soulage, ça soulage enfin quelque chose qui ne soit pas un humanisme. Parce que bon, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire humanisme ? Ça désigne une période de l'histoire intellectuelle de l'Occident, donc la redécouverte de l'héritage littéraire grec dans la Florence du XVe siècle, et puis toute la suite, on appelait ces gens-là des humanistes. Humaniste, au départ, ça voulait simplement dire un professeur de lettres classiques. C'était ça que ça voulait dire. Puis ensuite, bon, on a dit, Érasme était un grand humaniste, Rabelais avait un côté humaniste, etc., parce qu'il savait bien le latin et le grec, hein, doctus utriusque linguae. Bon. Mais, alors après, en même temps d'ailleurs, ça en est venu à désigner l'attitude pour laquelle il n'y a rien d'au-dessus de l'homme. Et c'est comme ça que, en anglais, humanism, c'est une manière polie de dire athée. De dire athéisme. Le 19e siècle anglais a inventé humanism, secularism, et puis un troisième qui m'échappe pour l'instant, mais ça veut dire tout ça à peu près la même chose. C'était une manière, à l'époque victorienne, où il n'était pas admis, si vous voulez, enfin, c'était pas comme il faut d'être athée, bon, il fallait trouver d'autres formules. Alors, humanisme, ça veut dire des tas de choses. J'ai essayé justement dans ce livre que vous avez mentionnée, là, modérément moderne, si je me souviens bien, de distinguer différents sens et surtout d'esquisser une sorte d'histoire de l'humanisme. Alors, l'homme est différent des animaux et de tout le reste. Deuxième étape, l'homme est supérieur. Pas seulement différent, mais supérieur. Troisième étape, il faut qu'il conquiert cette supériorité. Cette supériorité n'est pas possédée, mais elle doit être acquise par la maîtrise technique de la nature. Puis quatrième étape, on n'a plus besoin de quoi que ce soit au-dessus de soi. On n'a plus besoin de la nature, on n'a plus besoin de Dieu. Bon. On est au sommet. Bon, alors évidemment, ce qui est amusant, c'est de voir comment cette ascension longue, enfin séculaire, et difficile, a été suivie en quelques décennies d'une dégringolade. L'escalier qui avait été péniblement gravi a été dévalé. Et on s'est dit, on en vient maintenant à dire que finalement, la différence entre l'humain et l'animal, bof, c'est pas grand-chose. Nous sommes des singes qui ont eu un petit peu de chance, ou peut-être même nous sommes des vivants qui ont eu un petit peu de chance, même pas des singes.
Et alors, qu'est-ce que justement le christianisme peut apporter à cette réflexion à propos de singes? Vous citez aussi la blague d'un anthropologue qui dit le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous.
Alors, c'est pas un anthropologue. Je me demande bien si c'était pas Pierre Dac.
Ah.
Ou Francis Blanche, je ne sais plus. Enfin, l'un des deux comparses. Oui, c'est assez profond parce qu'effectivement, ça joue sur l'ambiguïté de l'adjectif humain. Nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Nous sommes en arrière par rapport au chemin que nous devrions parcourir. Chesterton, autre auteur que j'aime beaucoup, disait que le péché originel était le seul dogme chrétien qui était susceptible d'une vérification expérimentale. Bon, c'était un petit peu charrié. Enfin bon, il avait l'habitude du paradoxe. Non, ce qui est expérimentalement constatable, c'est que nous ne sommes pas bons. Bon. Quant à l'origine de ce manque, ou de cette méchanceté, bon, c'est un autre problème. Et là, ça n'est pas constatable. On ne peut pas assister au truc. Enfin, on peut en expliquer les conséquences. Pascal, je crois, avait tout à fait raison de dire que l'homme serait mystérieux si on n'avait pas ce savoir révélé sur l'origine de ce qui fait que nous ne sommes pas ce que nous devrions être.
Alors ce savoir révélé, il a quand même irrigué la culture occidentale dont nous sommes issus pendant très longtemps, ou tenter d'irriguer la culture qui s'en est inspirée, plus ou moins adroitement selon les périodes. Et il faut bien reconnaître qu'il y a un effet de rupture dans notre rapport au christianisme en Europe et dans notre hexagone français. On voit bien que on est passé d'un catholicisme culturel qui concernait 95% des Français, à aujourd'hui un quart des Français qui sont baptisés. Bon, il y a un effondrement de ce qui est des pierres d'angle, selon le schéma que Chantal Delsol a analysé dans La fin de la chrétienté. Mais nous sommes restés, dites-vous, christianistes. C'est-à-dire que nous continuons à avoir des lunettes chrétiennes.
Alors, bon, en ce qui concerne l'histoire de l'Occident, il n'y a pas de quoi se vanter. Il n'y a pas de quoi se vanter, mais il n'y a pas à être plus honteux que d'autres civilisations. Y a un exemple qui m'est venu à l'esprit il n'y a pas tellement longtemps. Au moment de toute cette vogue de déboulonnage de statues, On a déboulonné la statue de Jean, pas très recommandable, comme, je ne sais pas, Cecil Rhodes, bon, qui était quand même un type, bon, voilà, avec lequel je n'aurais pas joué au poker. Enfin, si je savais jouer au poker, ce qui n'est pas le cas. Mais on a déboulonné aussi des statues de gens qui, bon, n'étaient pas parfaits. Mais enfin, qui est parfait à part moi? Bon, je me demande, hein. Bon. Mais genre, j'ai appris que le beau pays d'Ouzbékistan, en Asie centrale, hein, c'est une ancienne république socialiste soviétique qui a pris son indépendance depuis, bah, l'Ouzbékistan a érigé 3 statues à Tamerlan, des statues de 6 à 7 mètres de haut, donc pas des petits bibelots, hein. Or, les historiens attribuent à Tamerlan... Alors, la fourchette la plus basse, c'est 1 million. La fourchette la plus haute, c'est 17 millions de victimes. Bon. Apparemment, s'il y avait des statues à déboulonner, je ne commencerais pas par celle de, mettons, de Colbert ou de Victor Schœlcher. Ça, c'est quand même un petit peu le pompon. Bien. Alors, la rupture... avec la rupture civilisationnelle... avec le christianisme, ben c'est un fait massif. C'est un fait massif dont je ne sais pas du tout si ça va durer. On peut penser à un retournement, j'en sais rien. Hein. Bon, l'histoire et le futur nous est totalement inconnu. Il y a quelque chose que je n'aime pas lorsque l'on parle de ça. On dit, oui, les chrétiens sont moins nombreux, mais ils sont meilleurs. J'aime pas trop ça, parce que ce jugement est porté par qui? Ben, réponse, par ceux qui restent chrétiens eux-mêmes. Donc j'aimerais qu'il fût émis par les autres, hein, qui diraient « voyez comme ils s'aiment, hein, bon, » ou des choses de ce genre-là. Bon, ça n'est pas le cas. Alors sommes-nous encore christianistes? Ben, d'abord, c'est un mot que j'ai inventé, c'est assez amusant. Enfin, j'en suis pas sûr, enfin, je sais que je l'ai... risqué donc en 93 exactement, dans la deuxième édition du petit bouquin sur l'Europe. Et bah, ce livre, ce terme-là a plu. Bon, il y a des gens qui ont trouvé ça rigolo, ce qui était vrai. Alors qu'est-ce que c'est qu'un christianiste? Bah, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit au Christ. Un christianiste, c'est quelqu'un qui croit au christianisme, qui pense que le christianisme a été... comme dirait Georges Marchais, globalement positif, qui a contribué efficacement, bon, au progrès moral de l'humanité. Bon. Ce qui me semble vrai. Hein. Alors, les christianistes, je les aime bien, non pas en tant qu'alliés objectifs, pour reprendre du vocabulaire communiste, mais simplement parce que c'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai. Simplement, bon, bah... j'ai dit ça quelque part, je crois que je les inviterais à se demander si ce qui a été bon pour saint Augustin, pour saint Thomas, pour Andrei Roubliev, pour Jean-Sébastien Bach, pour Newman, pour Maximilien Kolbe, pour des tas de gens, pour Edith Stein, etc., ça pourrait peut-être être bon pour eux aussi. Voilà, c'est la seule chose que je leur demande. Alors, christianiste, ça aussi, j'emploie pas le mot en ce sens-là, mais vous avez fait allusion au fait que nous avons encore des lunettes chrétiennes. Ça c'est vrai, hein, c'est vrai. Nous regardons ça vaut pour les pratiquants ultra-pieux, mais ça vaut aussi pour les bouffeurs de curés enragés, hein. Nous regardons le monde avec des lunettes qui sont teintées par le christianisme dans lequel nous avons baigné, volontairement ou involontairement, depuis des siècles. Alors, l'exemple clé que j'ai employé d'ailleurs, c'est l'islam. Nous regardons l'islam avec des lunettes chrétiennes. Et nous disons, par exemple, ben, il y a dans l'islam des réalités religieuses que nous respectons. Et nous les respectons parce que nous les trouvons aussi dans le christianisme. Bon, la prière, bon, bah, ça se trouve dans le christianisme, même si c'est une autre forme Le jeûne, bon, bah, ça se rencontre pendant le carême, même s'il est beaucoup moins rigoureux que le ramadan. Le pèlerinage, bon, bah, voilà, y a des gens qui vont à la Mecque, il y a d'autres qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, tout ça, c'est du religieux. Bon. Mais le reste, ça n'est pas du religieux, parce que dans le christianisme, personne ne vous dira ce que vous devez manger, ou plutôt ce que vous ne devez pas manger. Personne ne vous dira « ne buvez pas d'alcool ». Personne ne vous dira « messieurs, laissez-vous pousser la barbe et raccourcissez votre moustache ». Personne ne vous dira « mesdames, mettez un voile », etc. Bon. Donc, devant ces choses qui ne correspondent pas à l'image d'origine chrétienne que nous nous faisons de ce qu'une religion doit être, nous disons bah, « c'est du culturel ». Hein, parfois, quand on est méchant, on dit c'est du folklore. Hein, bon, c'est pas. Mais l'islam ne se voit pas du tout comme ça. Pour lui, faire la volonté de Dieu, c'est ne pas boire d'alcool, c'est ne pas manger de porc, c'est aussi, hein, il n'y a pas que ça, bien entendu, c'est pour les femmes se voiler, c'est pour les hommes se laisser pousser la barbe, etc., etc. Donc, il ne découpe pas, si vous voulez, la réalité de la même manière, et en particulier leur système de vie, de la même façon que nous faisons. Et alors, c'est, évidemment, ça entraîne un marché de dupes. On leur dit, bon, nous acceptons votre religion, mais la charia burque. Alors que, pour eux, bah, la charia... Une forme de la charia, la forme de la charia qui est en vigueur selon l'école juridique, l'une des quatre écoles juridiques à laquelle ils appartiennent, c'est la religion. C'est pas autre chose. Donc, je crois que d'une certaine manière, d'un côté, nous ne sommes pas assez chrétiens, d'un autre côté, nous le sommes trop.
Dernière peut-être question, puisque le temps, hélas, file, mais... vous nous parlez de l'islam, je rappelle que vous avez énormément travaillé sur la philosophie médiévale arabe. Vous avez commencé l'entretien en disant « les autres civilisations nous disent quelque chose dont nous ferions bien nous inspirer ». Alors, qu'est-ce que l'islam nous dit aujourd'hui dont nous ferons bien nous inspirer, peut-être en France ?
La question qui fâche pour 5 minutes.
Bah, écoutez, d'abord, il nous dit « je suis là ». Ne m'oubliez pas, hein, ne pensez pas qu'il n'y a que vous sur la surface de la Terre, et ben, voilà, vous avez à trouver avec moi un modus vivendi, ou au contraire, vous avez à, à nous refuser, mais en le faisant sincèrement, en le faisant franchement, sans baiser la mourette, sans embrassons-nous Folleville, hein, sans... sans hypocrisie. Bon. Il nous dit d'autre part que la volonté de Dieu peut s'appliquer, enfin doit s'appliquer à l'ensemble de la vie. La différence étant que pour le christianisme, cette volonté de Dieu, elle passe, si je puis dire, par le filtre de la conscience et pas. Elle n'est pas brute de décoffrage, pardon, dans un livre révélé, hein, prétendument révélé, prétendument dicté au prophète. Elle n'est pas dans l'exemple de la vie du prophète, hein, c'est le hadith, hein, mais elle est dans ce que la conscience, voix de Dieu, vous dicte. Conscience qui est elle-même filtré, si je puis dire, par l'intelligence. C'est pour ça, par exemple, que le christianisme n'a pas besoin qu'on lui révèle qu'il ne faut pas boire d'alcool. Il suffit d'être suffisamment calé en diététique pour dire, bon, ben voilà, un petit verre de vin, ça fait du bien, parce que ça contient du tanin, c'est bon pour vos artères, etc., mais... au-dessus de 18 verres de vodka, là, il vaut mieux s'arrêter. Hein. C'est à l'intelligence humaine que le christianisme fait confiance. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Cette confiance que le christianisme fait à l'intelligence humaine. Il n'y a pas de règle sur le voile, mais il y a la décence. Hein. Ne vous habillez pas n'importe comment, mais on n'a pas besoin de dire bah, « mettez un voile de telle longueur, de telle opacité, etc. » Ça varie à l'infini, suivant les régions et les époques et les écoles en islam, mais en christianisme, on dit simplement aux gens, et pas seulement aux femmes d'ailleurs, habillez-vous de manière décente, selon le climat. S'habiller de manière décente au Nigeria, c'est pas la même chose qu'en Finlande, bon, voilà, ou que chez les Esquimaux. Bon. Manger des choses qui sont bonnes pour la santé et qui ne détruisent pas à l'excès le stock des espèces animales dont vous êtes les prédateurs. Ça, tout ça, c'est confié à l'intelligence humaine. Bon. Bon, j'ai parlé de l'exemple du vêtement. Bon, pour la barbe et la moustache, bah, allez chez votre coiffeur, demandez-lui ce qui vous va bien, demandez-lui, bon, voilà, essayez d'éviter qu'il y ait trop de poux dans votre barbe, des choses de ce genre-là. Ça, c'est confié à l'intelligence humaine. Alors qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu doit intervenir. Ça, j'ai dit ça dans un autre bouquin dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, et qui s'appelle « À chacun selon ses besoins ». C'est un petit peu une sorte de petit traité de la Providence, si vous voulez, très inspiré par Thomas d'Aquin, pour lequel j'ai quand même beaucoup d'admiration, même si je ne le considère pas comme une vache sacrée. Dieu intervient lorsque on ne peut pas faire autrement. Alors ça, c'est l'économie du salut. On ne peut pas se sauver soi-même. Ben, il a fallu toute l'histoire d'Israël, les prophètes, l'enseignement de Jésus, sa passion, sa résurrection, toute l'économie du salut, parce que il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et Dieu, d'une certaine manière, applique le principe de subsidiarité.
Cela fait un magnifique mot de la fin. Dans la grâce de Noël, chers auditeurs, à dans un mois, et d'ici là, que Dieu vous garde.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Lucien Rabouille, émission préenregistrée le 28 novembre 2025 et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 26 décembre de 19h30 à 21h et réalisée par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.